Paroles et musique.
Une émission proposée et présentée par Claire de Castellane.
Bonjour à tous et merci d'être présents pour ce rendez-vous hebdomadaire à la découverte de la musique classique. Aujourd'hui, j'ai un invité qui joue d'un instrument discret, toujours en support des solistes, mais qui voit sa présence gagner en importance grâce notamment aux compositeurs actuels. Cet instrument, c'est l'alto, que vous connaissez peut-être pas très bien, instrument à cordes frottées à mi-chemin entre le violon et le violoncelle, dans un magnifique registre qu'on appelle médium, ni soprano ni basse au milieu. Et j'ai pour nous le faire découvrir aujourd'hui celui qui tient la partie d'alto au sein de l'ensemble intercontemporain. On expliquera ce qu'est cet ensemble intercontemporain. Bonjour Christophe Desjardins.
Bonjour.
Est-ce que vous êtes d'accord quand je dis que l'alto a longtemps été injustement ignoré à de rares exceptions près ?
Oui, c'est vrai que c'est un instrument qui est resté très longtemps dans l'ombre, un petit peu dans l'ombre de l'orchestre, où il avait une place tout à fait centrale, mais on lui a rarement confié des parties principales. Alors c'est arrivé un petit peu quand même, Mozart était un des premiers... dans sa symphonie concertante.
Et il jouait de l'alto, en fait.
Et lui-même, oui. Alors ça, on pourrait... c'est vrai que, en fait, c'est aussi un instrument qui est le jardin secret de beaucoup de compositeurs. Bach, Beethoven, Mozart...
Parce qu'en fait, si on parle un tout petit peu technique, l'alto joue la partie de remplissage de l'accord, qui fait que sinon, il serait vide. Et c'est comment dire, c'est s'il est pas là, s'il est là, on le remarque pas. S'il est pas là, on remarque son absence, en fait.
Oui, ben c'est vrai que dans l'écriture à quatre voix, l'écriture du quatuor à cordes, eh bien, et bien la partie centrale, la partie médium, c'est la partie de l'alto. C'est vrai que c'est oui, c'est essentiel dans l'écriture.
C'est un petit peu le ciment entre les briques, moi, j'ai toujours trouvé.
Oui. Et d'ailleurs, il n'y a aucune formation qui existe avec deux violons et violoncelle.
Non, ça se casse la figure harmoniquement. Ouais. Hein. On pourrait l'expliquer très techniquement, mais simplement à l'oreille, ça s'entend. Et donc, c'est oui, le jardin secret de pas mal de compositeurs.
Voilà, et dans l'orchestre, on dit un peu que l'alto, c'est le ventre de l'orchestre. Parce que voilà, c'est lui qui nourrit aussi l'harmonie.
Et justement, ce que je vous propose, vous parliez là de la symphonie concertante de Mozart, tout de suite pour se mettre dans le bain de ce timbre, de ce registre de l'alto, de ce ventre orchestral. On va écouter la fin du deuxième mouvement de la symphonie concertante, le mouvement lent, ce qu'on appelle la cadence de soliste. Cette symphonie, c'est une sorte de concerto pour deux solistes, symphonie concertante. Les deux solistes, c'est violon, alto. Ici, le violon va être Anne-Sophie Mutter, l'altiste Yuri Bashmet, un des grands représentants de cet instrument. Et ils vont donc faire un dialogue, tous les deux, sans l'orchestre, pendant la cadence. Le violon commence, alto répond à sa hauteur, violon, alto, et ensuite ils vont être ensemble, superposés. Vous allez pouvoir entendre vraiment que le timbre inférieur, c'est l'alto dont on parle maintenant. Et à la fin, il y aura une conclusion de l'orchestre. Écoutez, c'est magnifique.
Thank you.
Un instant musical de pure beauté que ce mouvement lent de la Sinfonia Concertante de Mozart, dans un magnifique do mineur, une tonalité très sombre, tragique, mais intense et vibrante. Et donc on a pu comme ça entendre le registre de l'alto médium situé sous le soprano, représenté par le violon. Et il y a une autre œuvre un petit peu où l'alto se fait la part belle, Christophe Desjardins, c'est Harold en Italie de Berlioz.
Oui.
Ça peut-être qu'il a. Est-ce que c'est lui qui a ouvert un petit peu l'émancipation de l'alto, cette prise de position soliste ou pas?
C'est-à-dire que dans Harold en Italie, c'est un rôle très particulier qui est très intéressant. C'est une œuvre, on peut raconter l'histoire, qui a été commandée par Paganini, le grand virtuose du violon, et qui commande une pièce à Berlioz, et Berlioz lui écrit une pièce pour alto. Et comme la partie soliste n'était pas assez virtuose, Paganini a refusé de le jouer. Mais l'œuvre n'en est pour autant pas moins intéressante. Et c'est une forme très intéressante parce que c'est une symphonie avec alto principal. Donc c'est à mi-chemin entre la symphonie, le concerto et la musique de chambre, puisque l'alto est utilisé comme révélateur. Il y a ce thème d'Harold qui parcourt toute la pièce, qui représente, qui incarne un héros, puisque l'histoire d'Harold en Italie, c'est écrit sur un texte de Byron, c'est l'histoire d'un chevalier romantique qui part concourir le monde, et donc il va être incarné par un instrument, l'alto. Berlioz choisit l'alto, il aimait beaucoup l'alto, il en a mis beaucoup dans ses pièces, et puis il en a parlé dans ses traités d'orchestration.
Oui, encore cette attirance de ce timbre, de ce registre,
oui,
cette
oui.
Chaleur en fait, intense, un peu intérieure comme
et
ça.
Et cette possibilité qu'un timbre puisse incarner, puisse décrire
un
état d'âme, exactement. Mmh. Voilà. Et donc, dans cette pièce, par exemple, l'alto est utilisé donc, en musique de chambre, en complémentarité avec quelquefois la harpe ou des petits groupes d'instruments, ou bien
en solo, vraiment avec l'orchestre
en fond.
Et ce qui permet d'être une œuvre, c'est une fresque musicale à Harold en Italie, c'est un genre très...
Oui, c'est une musique à programme où on suit vraiment le déroulement et les péripéties du héros.
Je peux vous demander, Christophe Desjardins, comment vous êtes venu à l'alto?
Eh bien, j'ai une éducation musicale qui a commencé par le piano. À 6 ans, j'ai commencé à étudier le piano. Et puis, vers l'âge de 10 ans, j'ai eu envie d'avoir mon instrument à moi, de faire mon propre choix. Et puis, les hasards de la vie. En fait, je ne connaissais pas l'alto. Je crois que j'en avais jamais entendu. Mais je savais que ça existait entre le violon et le violoncelle, que je n'aimais pas trop les aigus du violon, que j'avais un frère qui jouait déjà de la contrebasse, donc j'avais pas tellement envie de grave. Donc j'ai dit, ça sera l'alto. J'en ai fait un caprice et ça a débuté comme ça.
Et alors, vous nous avez apporté, passage obligé de cette émission, votre signature musicale, je ne sais pas ce que c'est. Vous m'avez caché le disque. Alors maintenant, dites-nous tout sur ce morceau qui vous accompagne, en fait.
Alors, c'est un morceau qui va renvoyer à d'autres pièces qu'on pourra écouter tout à l'heure. En fait, c'est de la musique sicilienne.
Oui.
C'est de la musique traditionnelle sicilienne, deux frères qui s'appellent les frères Mancuso, les fratelli Mancuso, et qui ont en fait, c'est une très belle histoire en fait, ce sont deux ouvriers siciliens qui n'avaient pas de travail en Sicile, qui sont partis travailler dans une usine en Angleterre. Et puis là, un peu coupés de leurs racines, eh bien, ils se sont mis à retrouver ces chansons, à les reconstituer, des choses qu'ils avaient entendues. Et donc, ils ont vraiment développé une carrière comme ça, de chanteurs de musique traditionnelle. C'était dans les années 70. Mmh. Et puis, ils ont commencé vraiment leur carrière dans les années 90. Maintenant, ils sont très célèbres. Ils ont été utilisés pour beaucoup de musique de films.
Et ils jouent donc quel instrument?
Ah non, ils chantent surtout et ils s'accompagnent de divers instruments.
D'accord.
Ils chantent en duo. Et alors, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ce travail sur la mémoire musicale, sur la vocalité. Et c'est une recherche que j'ai beaucoup partagée avec Berlioz aussi. Hein. Berlioz, on connaît ses folk songs, cette manière de prendre les matériaux musicaux qui existent dans toutes les cultures et puis de les transformer avec un regard contemporain.
On écoute les frères Mancuso.
Maria di Lì. ambrozza porta li bracci, pitia vegno per grazie, o Maria fammi grazie, fammi grazie, o Maria che ti vici l'eterno padre e ti vici madre di Dio, fammi grazie, o Maria. Maria di li grazie, combrazza porta li grazie, pitia vegno per grazie, o Maria fammi grazie, fammi grazie, o Maria, cate vici l'eterno pa, tre ti vici madre di Dio, fammi grazie, o Maria di li grazie, combrazza porta li grazie, pitia vegno per grazie, o Maria fammi grazie, fammi grazie, o Maria, dati vici l'eterno pa, tre di vici madre di Dio, fammi grazie, o Maria. O Maria, o Maria, e tu sai,
c'était les frères Mancusa dans un magnifique hymne à la Vierge, Maria di Grazie, Maria de Grâce, toute l'âme sicilienne sublimée par ces deux frères qui vont venir à Paris parce que Christophe Desjardins, altiste, mon invité aujourd'hui, va les faire venir parce que vous aviez envie de faire communier ces courants.
Eh bien, c'est aussi ma propre recherche. J'ai envie de me confronter mon interprétation. En particulier cette pièce de Berio que je joue beaucoup, Naturale, qui est sur des mélodies siciliennes. Donc c'est une pièce que Berio a écrite en utilisant des chants siciliens qu'il a recueillis. Il a enregistré une voix d'un chanteur de rue. Et puis il avait des textes musicaux de chansons. Et le projet de la pièce, qui s'appelle Naturale, c'est d'abolir un peu la différence, les frontières entre la musique savante et la musique traditionnelle.
Et vous venez du super traditionnel et vous allez chercher, grâce à la suite de Berio, à prolonger sa démarche avec les frères Mancusa.
Oui, je crois qu'il y a quelque chose aujourd'hui, je trouve que c'est mon rôle d'interprète, de chercher à être plus près du public. Et comme on fait dans une interprétation aujourd'hui, on essaye de trouver ce qui va toucher les gens et
je trouve selon les résonances actuelles aussi.
Selon les résonances actuelles, mais qui sont toujours, toutes nos résonances sont imprégnées du passé. Moi, je trouve que musicalement, on n'est que la somme de tout ce qu'on a traversé.
Ce que vous dites est incroyable, parce que vous êtes spécialisé sur la musique d'après 1950.
C'est un peu plus large que ça, quand même, parce que c'est quand même plus le 20e siècle en général. Mais ça, c'est une nécessité, comme on le disait, l'instrument est resté secret pendant très longtemps et il y a très peu de choses écrites. Hein. Donc, on a parlé de Mozart, de Berlioz, il y a deux sonates de Brahms, et puis c'est tout pour le répertoire.
Oui, vous ne pourriez pas être solo, voilà. Alto, juste donc, avec a, ça. Ouais,
voilà.
Je comprends.
Donc, et il se trouve que j'ai un goût pour la découverte de nouveaux langages musicaux, mais aussi de faire découvrir les choses. Et je me sens assez une âme de passeur. J'aime bien faire profiter de mon expérience. Donc c'est vrai que le XXe siècle et maintenant le XXIe, j'ai trouvé un terrain tout à fait favorable.
Pour épanouir tout ça, avant qu'on écoute Berlioz, là, dont vous venez très bien de parler, justement... Si on prend votre CV, vous avez un parcours classique conservatoire CNSM, premier prix à l'unanimité, ensuite vous lauréat d'un concours international, alto sono à la Monnaie à Bruxelles, ce qui est une belle référence dans le milieu musical. Et puis en 90, vous entrez à l'ensemble intercontemporain. Comment ça s'est fait ? Vous vouliez entrer, c'était un concours, parce que c'est peut-être là que ça se situe, ce début de votre prise en main, de cette envie d'apporter quelque chose.
D'abord, je voudrais dire que je trouve que dans un parcours, on ne maîtrise pas tout. Il y a peut-être des rencontres qui se font ou des bifurcations qui ne sont pas toujours maîtrisées. Là, je ne sais pas. C'est vrai que j'avais envie de... c'est un ensemble extrêmement prestigieux, fondé par Pierre Boulez, que j'avais déjà rencontré. J'avais eu l'occasion d'y travailler. C'est un ensemble de petite taille. Hein. C'est un ensemble de 30 musiciens. Donc, ce n'est pas du tout le format d'un orchestre. Et surtout, c'est un ensemble de solistes. C'est-à-dire que ce sont des musiciens de très haut niveau, des gens qui sont capables de tenir des parties solistes. On peut faire de la musique de chambre et on joue aussi des concertos. C'est un ensemble à géométrie variable, ce qui fait que dans un même concert, on va se trouver une fois assis à côté de la flûte, l'autre fois à côté de la trompette. Et donc cette mobilité, déjà, ne serait-ce que la mobilité matérielle, ça, c'est déjà une chose qui m'attirait beaucoup plus, disons, qu'une expérience d'orchestre qui est magnifique, mais qui est un autre format. Et puis, bien sûr, il y a le goût de la découverte. C'est vrai que l'alto lui-même m'a un petit peu attiré vers ce terrain de l'expérimentation, puis après on passe par une salle d'expérimentation, mais après il y a vraiment une réalité de la construction d'une époque musicale. Et ça, c'est vraiment, je trouve ça extraordinaire d'être au contact avec des créateurs, parce que on voit passer beaucoup de choses, on rencontre des esthétiques différentes, et puis on voit au fil du temps ce qui tient et ce qui va être un peu l'image d'une certaine, d'une décennie, par exemple. On voit les courants passer, on voit par exemple aujourd'hui comment les chapelles sont tout à fait, ont disparu. C'était des choses qui existaient il y a 10, 20 ans. Aujourd'hui, et les musiciens se débrouillent, ils font une espèce de mélange de différentes influences, et puis ils essaient de trouver, et puis on voit ceux qui tiennent.
On va donc écouter la Naturale sur une mélodie sicilienne de Berlioz. Vous êtes Christophe Desjardins à l'alto, accompagné par Jacqueline Hott aux percussions, avec donc une bande enregistrée d'un chanteur sicilien.
Thank you.
C'était Naturale sous Melodie Siciliane, un disque paru chez Aeon, interprété par Christophe Desjardins à l'alto, une pièce de Luciano Berio. Il y avait Jacqueline Haute aux percussions et un chanteur sicilien enregistré en train de chanter une mélodie traditionnelle. Donc une pièce un petit peu étonnante quand même, parce que ce chanteur sicilien enregistré à la fin des années 70, il est figé à vie. Donc quand on veut enregistrer un disque, on doit se faire fournir cet enregistrement et jouer dessus. Mais alors ça fait un son des années 70 plus des musiciens actuels. C'est ça en fait comment...
C'est exactement comme au concert. C'est vrai que cette bande a été enregistrée, oui, dans les années 70 par ce chanteur qui était très fameux à Palerme, qui s'appelait Pepino Celano.
Oui, Berio voulait cette voix-là.
Voilà, il voulait cette voix. Et puis
pour travailler après autour.
Voilà. Et c'est une référence. C'est pas un chant des années 70, c'est plutôt une mémoire. Et ce que voulait faire Berio, c'était de se confronter son écriture de compositeurs du XXe siècle à une mémoire qu'on peut recueillir comme ça et puis diffuser. Donc au concert, c'est la même chose. On diffuse cette voix enregistrée qui est plage par plage, chaque chanson, des chansons de rue, hein, des chansons de marché. C'est vraiment des chansons d'amour, des chansons pour vendre le poisson qui est meilleur que celui du voisin. Mmh. Et c'est vraiment ça. Et puis, donc, il y a cet alto au milieu qui commente, qui imite, qui glose et puis qui prend des libertés. Et puis, moi, c'est un peu comme ça que je sens la pièce. C'est pour ça que j'aime beaucoup la jouer. Il chante. Il devient chanteur d'alto. C'est-à-dire qu'on oublie un peu l'instrument, de la même manière que la frontière entre musique traditionnelle et musique savante, avec les techniques, parce qu'en fait, la partie d'alto est très, très élaborée, avec des techniques contemporaines qui sont des techniques du XXe siècle. Mais en même temps, on ne le remarque pas. Il y a une continuité entre la voix chantée et la voix, disons, de l'instrument, la voix d'alto-instrument.
C'est cette démarche qui vous motive, ouais. C'est réussir à être dans la continuité, tout en étant dans son époque.
Oui, et bah, la démarche qui me motive, c'est surtout de jouer de la bonne musique et de la transmettre. Voilà, c'est ça,
et
c'est
qu'elle
ça.
Soit juste.
Et qu'elle soit, qu'elle ait de l'émotion. Vous voyez, je trouve qu'il y a autant le champ des possibles est immense et il y a autant de possibilités d'émotion dans un quatuor de Beethoven que dans une pièce de Berio, de tous les gens qui nous accompagnent aujourd'hui, la musique de Ligeti, la musique de Boulez, etc.
Et bien justement, il y avait une autre pièce aussi que vous vouliez nous faire écouter qui a une dimension particulière. On ne va pas dire cette dimension, on va juste annoncer. C'est une pièce de Morton Feldman, qui est un New-Yorkais mort en 87. Cette pièce s'appelle Watsco Chapel. Vous vouliez vraiment nous la faire écouter. Vous êtes à l'alto, accompagné par un chœur.
Oui, le Collegium Novum de Zurich.
Voilà, des percussions et un celesta qui était aussi de l'orchestre suisse. On écoute donc cette Watsco Chapel et vous nous en parlez après, Christophe Desjardins.
Thank you.
Une épure musicale parfaite que cette Rothko Chapel de Morton Feldman pour chœur alto, percussion et celesta. La partie d'alto étant tenue par Christophe Desjardins qui est mon invité aujourd'hui. Cette pièce, vous vouliez nous la faire entendre pour sa dimension contemplative.
Plus que contemplative, je trouve qu'il y a une dimension spirituelle et le projet de la pièce lui-même est intéressant. Morton Feldman a écrit cette pièce pour un lieu particulier. Pour cette chapelle, peinte par Rothko, c'est une chapelle qui se trouve à Houston. Et l'idée au départ, c'était de faire jouer la pièce dans ce lieu, avec ces toiles peintes par Rothko. Il y a 14 toiles.
Donc une dimension une chapelle... de remplir un espace dans cette musique.
Voilà, et puis c'est une chapelle, ce n'est pas un édifice...
Ce n'est pas Notre-Dame de Paris.
Oui, mais ce n'est pas un édifice profane, mais c'est une chapelle qui n'est pas dédiée à une religion en particulier. Et donc, il y a l'idée que chacun peut découvrir, pour retrouver sa propre spiritualité dans ce lieu. Et la démarche de Feldman va dans ce prolongement, c'est-à-dire que dans sa musique, il y a une possibilité, une ouverture d'avoir... un accès à la transcendance et lui le transmet, nous le transmet comme ça par cette épure, par cette voix, ce cœur qui chante bouche fermée, qui est un peu comme le fond, le fond d'étoile de Rothko. Et puis ce qui va permettre ce qui va être le révélateur, je trouve, c'est ce jeu de l'alto très épuré, sans vibrer,
avec un son très tenu, à maîtriser,
voilà, un son tenu, retenu, qui je trouve qui incite effectivement à la méditation, au recueillement,
et on est bien à jouer cette pièce et à écouter cette pièce.
Oui, dans quelques jours, j'ai la chance de la jouer à Helsinki avec un chœur que j'ai rencontré cet été. C'était une perspective qui me réjouit à chaque fois.
Justement, là, quand vous parliez de comment jouer cette pièce de Feldman, je me disais, comment lire la partition ? C'est une des particularités que vous avez, vous, en tant que chantre de la musique contemporaine, c'est de savoir lire des partitions, pas du tout avec les notes telles qu'elles peuvent être habituellement écrites, comme on peut les voir sur des partitions plus traditionnelles. Il faut intégrer un langage, enfin une écriture musicale particulière, propre à chacun, non ? C'est pas très,
En réalité, je crois qu'on... On a beaucoup fantasmé, je crois, sur parce qu'il y a eu des expérimentations graphiques dans les années 50. Il faut voir que dans l'histoire de la musique, quand même, les années 50, ça a été un des bouleversements très, très importants. Il y avait, comme dans beaucoup d'autres arts, nécessité de repenser les choses, d'avoir des nouveaux codes, de nouveaux... donc ça s'est passé aussi... par des aspects graphiques, et il y a de très belles partitions de Stockhausen qui sont avec toutes les couleurs, toute cette époque où il y avait des formes ouvertes, où il fallait choisir son parcours, donc il y avait des flèches dans tous les sens.
Et des partitions qui faisaient 3 mètres sur 2.
Exactement, on trouvait jamais un pupitre pour pouvoir les mettre. Mais bon, on est revenu de ça. Je trouve que l'écriture est beaucoup plus traditionnelle, tout simplement parce qu'il faut... il faut la possibilité de transmettre l'écriture, et donc les codes sont quand même
Pas standardisé, mais en tout cas presque en fait.
Oui, quand même. On a besoin d'une partition. Il faut qu'on puisse filer assez facilement la hauteur, la durée, les intentions musicales.
C'est peut-être ça qu'on est en train de dire en ce moment aux auditeurs, c'est que finalement il y a eu des recherches un peu dans tous les sens dans les années 50-60, l'immédiate après-guerre, parce qu'on avait besoin d'autres choses, les événements avaient été assez lourds aussi, et que finalement maintenant on a un peu pacifié tout ça et que la musique actuelle est beaucoup plus habituelle.
Je ne dirais pas tout à fait de cette manière-là. Je pense qu'effectivement dans les années 50-80, il y avait beaucoup de chapelles, nécessité de revendiquer des choses. Il y avait des idéologies, mais c'était vrai aussi en politique. La musique n'est que le reflet du reste du monde. Et donc, de la même manière qu'il y avait des chapelles, des courants très forts qui s'opposaient, qui se combattaient, eh bien, aujourd'hui, ces grands clivages ont disparu. Et les musiciens les compositeurs créent leur propre mélange avec différentes influences, et certains qui sont plus doués que d'autres ou plus qui répondent plus, alors ça c'est un mystère pourquoi certains restent, trouvent un langage qui s'affirme et qui correspond, dans lesquels beaucoup d'auditeurs se retrouvent. Mais je ne dirais pas qu'on n'est plus dans l'expérimentation, simplement, il y a peut-être un côté plus pragmatique aujourd'hui.
Il y a peut-être moins cette volonté de faire autre chose à tout prix. C'est moins extrémiste, quand même.
Oui, peut-être, mais en même temps, je crois qu'on a besoin de... Il y a quand même des personnalités qui sont très atypiques et qui viennent secouer le cocotier, et c'est très bien.
Oui. On peut écouter la pièce de Boussemans, parce que elle a été écrite pour vous il y a longtemps, enfin non,
oui,
il y a une quinzaine d'années.
Cet enregistrement qui paraît ces jours-ci, Surfing de Philippe Boussemans, était une réédition de mon premier enregistrement solo. Et donc, effectivement, c'est un retour à mes premières amours, du temps où les quelques années que j'ai passées à Bruxelles comme alto solo. Mm-hmm. J'avais rencontré Philippe Boussemans, qui a écrit cette pièce extrêmement sportive. Ça s'appelle Surfing, d'ailleurs. Et où ça commence par une grande cadence d'alto, extrêmement vive, virtuose. Et puis l'ensemble se laisse entraîner par la partie solo. Et puis il y a ce que j'aime beaucoup chez Philippe Boussemans, et que j'ai retrouvé dans son opéra qui vient d'être créé à Paris, son dernier opéra Yvonne. Il y a cette liberté, cette fantaisie, cette énergie. Et puis, bon, ça c'est une pièce des années 90, 90, qui a encore... ce côté très 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 fou, très éclaté, mais aujourd'hui il a produit un opéra. C'était extraordinaire le succès qu'il a eu, puisque le public qui n'est pas spécialiste d'opéra s'est trouvé tout de suite bien avec ce langage musical. Donc je suis content d'avoir cette réédition aujourd'hui.
Ça tombe très bien. On écoute donc Surfing de Boussemans.
Thank you.
C'était Surfing de Boussemans, une pièce écrite pour Christophe Desjardins, altiste, qui est avec nous aujourd'hui, qui se fait quand même, on peut le dire, le chantre de la musique contemporaine et qui le fait grâce à son alto. Et vous vouliez, Christophe, nous parler de l'importance d'aller au concert.
Oui, c'est vrai que c'est une expérience irremplaçable. Aujourd'hui, on est saturé de bruits divers partout, dans toutes les situations de la vie. Et on oublie que le lieu du concert, c'est un lieu très particulier. Alors, il y a un certain rituel. Je pense que...
On pourrait l'alléger.
Ou on pourrait peut-être changer un petit peu la forme du concert. Mais je crois qu'on est plusieurs à y réfléchir. Et voilà, il y a de nouvelles formules qui arrivent.
Mais il y a quand même... Une place importante faite à l'écoute. On privilégie l'écoute. Tu viens pour écouter, ouvrir grand tes oreilles et assister à quelque chose.
Dans un lieu qui est prévu pour ça, qui a une acoustique qui permet d'entendre des tas de choses extrêmement précises, extrêmement subtiles. Oui. Alors, la radio, le disque sont des vecteurs irremplaçables parce que ça permet d'entendre les choses autrement, d'entendre des paroles aussi sur la musique qui sont très importantes. D'avoir
un accompagnement autour.
Exactement. Mais c'est vrai que le lieu du concert, et particulièrement pour la musique contemporaine, c'est très important parce qu'il y a une dimension scénique, une dimension... quand on voit le son se former, quand on voit un ensemble et qu'on comprend que tel son qu'on entendra, qu'on ne pourrait pas peut-être... discriminer ou vraiment analyser quand on l'entend comme ça sur un disque, si on vous le voit jouer, alors on profite vraiment de l'événement concert.
Le visuel compte pour l'auditif musical.
Le geste, oui.
La création du son. Il faut qu'on se quitte, Christophe, parce que le sablier coule inexorablement. Merci beaucoup pour cet échange musical. On va se quitter en musique avec la partita 1 de Philippe Manoury. C'est une pièce toute récente. Vous venez à peine de l'enregistrer, je crois.
Voilà, le disque va sortir dans quelques mois. Donc là, je vous ai apporté le master en avant-première.
Avec donc alto et électronique.
Voilà.
Encore une fois, sur scène, c'est très impressionnant parce qu'on a vous êtes debout, vous jouez votre pièce et il y a un
tout un dispositif. Et puis, bon là, ça serait l'objet peut-être d'une autre émission, mais il y a vraiment des choses tout à fait extraordinaires qui se passent dans l'électronique. Et dans cette petite extrait que j'ai choisi, qui est la fin, des choses extrêmement fines, alors des choses évidemment inouïes qu'on ne pourrait pas faire sur un alto, mais quand même qui sont toutes issues de l'alto, je dois le dire.
Au revoir à tous. J'oublie de vous saluer, déjà prête à écouter la musique, mais écoutez avec nous et on se retrouve la semaine prochaine pour toujours plus de bonheurs musicaux. Merci.
Thank you.